C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je voyais dans la presse ce matin que le nombre de feux de forêt, déjà des brasiers en cours, là, c'est en augmentation par rapport à ce qu'on voit normalement. Selon les données de la SOPFEU, 20 brasiers ont été recensés au Québec, alors que à pareille date, c'est autour de 4 en moyenne depuis les 10 dernières années. Pourquoi? Bon, ben parce que température beaucoup plus chaude, pas de neige au sol. Donc, évidemment, ce sont des conditions propices pour des incendies. Ça ne veut pas dire qu'on va revivre cet été ce qu'on a eu l'année dernière, ce qui était une année record en termes d'hectares ravagés par le feu. Et évidemment, on demeure très vigilant. On avait parlé avec le ministre Bonnardel des préparatifs, justement, pour cette saison des feux. Mais déjà, on sent là qu'avec l'hiver qu'on a eu, peu de neige, température élevée, il y a un potentiel aussi important. Je vais faire le tour ce matin de ce que je pourrais appeler certaines réalités montréalaises. D'abord, on va recevoir Éric Allan Caldwell, le président du conseil d'administration de la STM, et Jocelyn Latulippe, qui est le directeur de la Sûreté et Sécurité Incendie pour le métro. Concernant l'insécurité, il y a eu un nombre élevé d'événements violents dans le métro. Nathalie Collard, journaliste à la presse, était avec nous lundi pour parler de l'agression dont sa fille a été victime. Et vous avez été très nombreux à partager votre sentiment, donc d'insécurité, mais de malaise, de crainte. Et c'est pas toujours une agression, mais c'est de ne pas se sentir bien quand on prend le métro dans certaines périodes de la journée ou à certains moments là, ou certaines lignes en particulier. Alors, il devrait annoncer l'augmentation des patrouilles à 4, c'est-à-dire 2 constables et 2 ambassadeurs. Également, une augmentation de la vigie par caméra avec la présence en tout temps de quelqu'un qui regarde les images. Pas juste d'avoir des caméras plantées, mais avoir une surveillance. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Est-ce que c'est mieux? Certain. Mais, je vous le dis, on va probablement nous dire que sur le plan statistique, vous avez peu de chances d'être agressé dans le métro. Tout ça est vrai, là. Ça ne veut pas dire que le métro n'est pas sécuritaire en soi. C'est qu'il y a présence de gens qui ne vont pas bien, qui peuvent être agressifs, qui peuvent bloquer des escaliers. Quand vous attendez sur le quai l'arrivée de la rame, ben vous regardez autour de vous, puis il y a parfois des attroupements, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui consomment. D'ailleurs, le nombre de plaintes, quand vous regardez les chiffres là, de la STM, c'est en augmentation quand même importante. Là. Si on regarde les statistiques, les données qui étaient entrées au mois de janvier, en 2023, ils ont eu 47 000 appels dans le métro, 5 000 de plus qu'en 2022 et 22 000 de plus qu'en 2017-2018, c'est-à-dire avant la pandémie. Donc, c'est clair qu'il y a une réalité. Puis, je vais ajouter à ça ce matin un autre dossier. C'est la mission Old Brewery, qui opérait ce qu'on appelle un service d'hébergement d'urgence au refuge de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et là, ils ont décidé de relocaliser près de 150 personnes qui vivent là. Et sur les 150, il y a un plan là qui fait en sorte qu'on va les déplacer ailleurs. Il y a 50 personnes qui sont récalcitrantes, qui veulent rien savoir du plan qui leur est proposé et qu'on va probablement, dès lundi prochain, retourner à la rue, pour ne pas dire retourner dans le métro. Donc, des gens qui ont des problèmes de consommation, des enjeux de santé mentale. Et on va parler avec la directrice adjointe clinique pour ces services d'urgence. Toujours concernant la grande région de Montréal, de Gazette ce matin nous raconte l'histoire. Imaginez-vous, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes sur la 40, vous roulez vers le centre-ville, vous êtes dans l'ouest de Montréal, et soudainement, à 6h30, il y a un morceau immense qui fracasse votre pare-brise. Votre rétroviseur est arraché. Le pare-brise, les photos sont dans De Gazette, est complètement fissuré. Vous recevez un coup comme ça parce que le rétroviseur vous cogne par la tête. Les gens ont été secoués, ils ont eu la peur de leur vie, sont allés porter plainte à la police. et ils sont convaincus que c'est un morceau de pavé d'un nid de poule qui les a atteints. Et le ministère des Transports a fait des travaux d'urgence, mais laisse sous-entendre que c'est peut-être un véhicule transportant de la marchandise qui a frappé le nid de poule, puis qui a, je sais pas, une boîte, un colis qui est venu frapper, qui a traversé l'autoroute. Et il y aurait eu d'autres gens qui ont éprouvé, qui ont porté plainte là, à la Sûreté du Québec concernant l'état de la chaussée. C'est la 40 tout près de la 13. Là, il y a un viaduc à Saint-Laurent. Et puis, vous dire également qu'il y aura 11 rues pour les piétons exclusivement à Montréal cet été. Et la nouveauté, c'est la Plaza Saint-Hubert. Donc, on va fermer entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. Et les rues qui étaient fermées l'an dernier, on peut penser à la rue Saint-Denis, par exemple, l'avenue Mont-Royal, c'est sûr, tout autour du marché Jean-Talon, l'avenue Bernard, la rue Wellington, bon, encore ces rues seront à nouveau fermées. Et puis, un projet pour mettre un peu plus de modernité dans ce qu'on appelle le bassin Wellington à Montréal. Donc, la Société immobilière du Canada qui veut construire 2800 logements, 1000 qui seraient des logements sociaux et loyers abordables. Puis aussi, on veut créer un bassin, l'équivalent de la plage Jean Drapeau. C'est-à-dire un bassin avec un système de filtration de l'eau là qui serait quand même intéressant. Donc, des gens qui, pratiquement au centre-ville de Montréal, pourraient aller se baigner. Voilà pour les réalités montréalaises. On va parler politique ce matin. Hier, le premier ministre François Legault, sur la question de l'immigration, a sorti l'arme d'un référendum sectoriel. Alors, on le sait, Québec exige tous les pouvoirs, Ottawa refuse, et la discussion, l'espèce de dialogue, je dirais presque de sourds, c'est M. Legault qui dit il y a trop de gens entrent au Québec, on n'a pas cette capacité-là. En plus, le fédéral paye pas sa juste part. Et de l'autre côté, M. Trudeau reconnaît qu'il y en a peut-être trop qui débarquent au Canada, au Québec, mais c'est pas clair comment il veut régler le problème. Donc, si on n'a pas tous les pouvoirs, on pourrait, et là, il faut quand même mettre ça dans le contexte, il pourrait tenir un référendum. Ça veut pas dire qu'il va le faire. Là, on est dans la sémantique un peu. Et j'allais dire, même s'il tient un référendum sectoriel sur la question de l'immigration, mettons que les Québécois disent « Oui, on veut qu'il y ait moins de réfugiés, on veut baisser le nombre des nouveaux arrivants. » Va changer quoi dans le rapport de force avec Ottawa? René Lévesque disait « On peut faire beaucoup de référendums, mais il y en a un qui compte, c'est celui sur l'avenir du pays. Et c'est pas de rapatrier des compétences puis des pouvoirs dans une juridiction, mais c'est d'aller chercher la totalité. Le reste, évidemment, c'est de la gouvernance. » Mais est-ce que vous pensez que Mark Miller va céder un pouce? Il l'a encore dit hier. Un pays où il y a un gouvernement central sans pouvoir, ça peut pas marcher. Ce sont deux visions qui s'affrontent. Ça, c'est le premier dossier concernant le premier ministre. Le deuxième, c'est toute l'histoire du temps d'écran. Je comprends là que les jeunes passent trop de temps. Les adultes aussi, en passant, passent beaucoup de temps devant des écrans, téléphones, tablettes et autres. Mais est-ce que c'est au gouvernement de légiférer sur cette question-là? Le premier ministre a dit hier, je pense qu'on aurait surtout besoin de la collaboration des parents. Et il a raison là-dessus. C'est bien beau là, demander à l'État de prendre la main de tous les citoyens. Et là, ce matin, je vais me faire haïr, là, mais c'est pas grave. Quand je vois texte de nouvelles concernant des gens qui ont regardé l'éclipse puis qui ont mal aux yeux. J'ai pas beaucoup de sympathie puis j'ai pas beaucoup de compassion parce que on en a assez parlé. Ça va de soi que tu regardes pas le soleil en général puis encore plus durant une éclipse. Mais si tu l'as fait, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il aurait fallu faire quoi pour mieux te protéger? Comment le gouvernement aurait pu te mettre dans une bulle, comme on a fait avec les enfants, parce qu'on avait peur qu'ils regardent dehors. Il y a une limite à ce que l'État intervienne dans la vie des gens. Et quand j'ai entendu le ministre Lionel Carman, pour tout dire, j'ai sursauté. On va faire quoi, là? Il y a des systèmes qui existent de contrôle parental. On peut peut-être améliorer un certain nombre de choses, mais c'est sûrement pas à l'État de tout faire. En plus, ce matin, dans la presse, c'est un regroupement concernant le vapotage. Alors là, depuis qu'on a changé la réglementation pour éliminer les saveurs, les parfums, ben il y a des tabagistes du Québec qui disent que c'est assez facile de voir les mineurs qui peuvent trouver des produits de vapotage dans les boutiques spécialisées, qui deviennent comme des dépanneurs, là, on change un peu de vocation. Et ils ont fait des expériences, caméra cachée, deux clients mystères de 16 ans qui ont fait une vingtaine de dépanneurs. Et ils ont pu acheter des produits réservés aux adultes dans 5 établissements. Puis bon, on peut toujours dire, ils avaient l'air de quoi? Est-ce qu'on les a cartés, pas cartés? Mais c'est sûr qu'il y a un marché parallèle et c'est sûr que la consommation de ces produits, puis l'industrie du tabac est derrière, là, en passant. Ben, c'est clair qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent pas, qui vapotent pas parce qu'ils veulent arrêter de fumer. C'est une tendance qu'on a implantée. Puis avec les saveurs, on disait que ça donnait un goût intéressant. Et puis dans Le Devoir ce matin, c'est un article qui nous apprend que la nutrition chez les sportifs peut rendre malade des jeunes athlètes. C'est intéressant parce que ce sont des diététistes, nutritionnistes, qui, encore là, demandent à l'État d'intervenir. Là. Mais pourquoi? Ben vous avez des jeunes qui prennent des boissons énergisantes, qui ont des palpitations cardiaques, d'autres qui consomment trop de suppléments à base de vitamines. On dépasse les quantités qui sont normales. D'autres qui, finalement, prennent donc des suppléments, suivent des conseils inadéquats. Il y a des entraîneurs qui connaissent rien. Bref, au nom de la performance, on est en train de mettre en danger sa santé. Donc, dans Le Devoir, vous pourrez lire ça ce matin. Il y a Radio-Canada qui nous parle des futures autoroutes de l'électricité. Bon, on sait tous que Hydro-Québec a des plans. Monsieur Fitzgibbon en fait son cheval de bataille pour d'abord répondre aux besoins des Québécois, puis des entreprises qu'on attire ici et qui sont énergivores. Donc, il y aurait quand même 5000 kilomètres de lignes de transport qui viendraient s'ajouter d'ici 2035. Ce sont des projets là, qui prennent facilement 10 ans à se concrétiser. Et Thomas Gerbet nous dit que Hydro-Québec répond plus ou moins, là, mais répond un peu, que ça coûtera 45 à 50 milliards. Il paraît que ça peut représenter tous ces travaux, là, ces nouveaux axes de transport d'électricité, jusqu'à 20 % de tous les travailleurs de la construction au Québec. Et donc, il y a des lignes qu'on va ajouter en partance de la Côte-Nord, Baie James, même de la Gaspésie, pour fournir cette énergie qui est nécessaire, et c'est intéressant. Puis on apprend au même moment, dans la presse, que le fameux fonds vert, dont on a changé le nom, qui s'appelle maintenant le Fonds d'électrification et de changement climatique, a un surplus de 1,7 milliard. L'ancien fonds vert était géré tout croche. L'ancien fonds vert, ça permettait à des ministères qui se faisaient bloquer des projets de dépenses d'aller chercher de l'argent pour toutes sortes de niaiseries, en passant. Pas que des niaiseries, mais il y avait un bon lot de niaiseries dans ces dépenses-là. Et là, on a changé ça, on a serré la vis, puis là, on dépense plus. Tu dis, OK, mais il me semble qu'il y a des besoins, que ce soit pour ajuster des infrastructures, pour faire des programmes pour mieux économiser l'énergie. Ça a l'air que la mentalité du gouvernement, c'est on a l'argent, on s'assoit là-dessus, puis on dépense un peu, puis pas beaucoup. Alors qu'à une certaine époque, le même gouvernement souhaitait pratiquement vider le fonds, ou en tout cas dépenser nettement plus. Alors vous comprendrez que c'est quand même paradoxal. Là, c'était le bar ouvert, puis maintenant on gère ça comme le frère économe dans un espèce de monastère environnemental où les projets sont pourtant potentiellement nombreux. Rapidement, dans les autres nouvelles, vous dire d'abord concernant Gaza, il y a toujours le retrait qui se confirme de l'armée israélienne, mais qui se prépare à une offensive importante contre Rafah. C'est la fin du Ramadan. Et évidemment, pour les Gazaouis, toujours des problèmes d'alimentation. Il paraît que l'aide humanitaire s'est améliorée un peu, mais ça demeure très fragile à travers toutes ces infrastructures qui ont été démolies. Je rappelle également que c'est aujourd'hui que la Banque du Canada va statuer sur le taux directeur, bref, sur les taux d'intérêt. Ça ne devrait pas bouger, mais ce qui sera intéressant, ce sont les mots que la banque va choisir pour parler du futur. Est-ce que dès l'été prochain, il pourrait y avoir une certaine baisse des taux d'intérêt? Doucement, rien de majeur, c'est possible également. Et puis, je veux terminer là-dessus, sur ses parents qui ont écopé hier de peines de 10 et 15 ans de prison parce que leur fils ado est entré dans une école et a tué 4 personnes. Et c'est toute la notion de responsabilité parentale. Je reviendrai pas là sur le détail des procès, mais le père avait offert une arme à son fils, un fils qui était pas très bien, qui avait des idées noires, qui a fait des dessins à l'école. Les parents le savaient, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ont pensé donner une arme? La mère a été particulièrement, malmenée devant le tribunal. On disait d'elle qu'elle était préoccupée davantage par son travail, par son amant, que de s'occuper de son fils. Bref, il se retrouve avec 10 et 15 ans de prison. Et puis l'autre cas, c'est un enfant de 6 ans, je répète là, un enfant de 6 ans qui avait ouvert le feu sur son enseignante. Elle avait été touchée à la main et finalement assez grièvement blessée. Elle a survécu. Et là, c'est l'ancien directeur de l'école qui fait face à des accusations pour négligence criminelle. Cet enfant-là, là, je rappelle, il a 6 ans, il est arrivé à l'école avec une arme à feu. C'est absolument renversant, c'est à Newport que ça se passe. Et cet enfant-là avait même failli étouffer son éducatrice en garderie. Mais tu dis, mais quel est cet enfant-là? Comment ça se fait que... Et c'est cette tendance lourde de dire, les adultes, que ce soit des parents ou des responsables d'école, vous avez un lien et vous pouvez être poursuivi, condamné pour des gestes commis par des ados et même des enfants.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Nous revenons ce matin sur ce qu'on peut appeler facilement le sentiment d'insécurité dans le transport en commun à Montréal, dans le métro, dans l'autobus. Il y a eu des événements. La fille de la journaliste Nathalie Collard qui a été frappée. Il y a des jeunes qui ont poignardé une personne itinérante dans le métro. C'était à Lionel Groulx. Ça se passe en quelques jours seulement. Et il y a clairement une augmentation du nombre d'incidents. Pour en parler ce matin, deux invités, Eric Allen Caldwell, qui est le président du conseil d'administration de la STM. Monsieur Caldwell, bonjour.
Bonjour.
Et Jocelyn Latulippe, qui est le directeur de la Sûreté et Sécurité Incendie à la STM. Monsieur Latulippe, bonjour.
Bon matin, monsieur Arcan.
Monsieur Caldwell, vous annoncez ce matin, vous allez le faire officiellement tantôt, là, des mesures, il y a une pression, c'est clair. Là, vous annoncez quoi exactement?
Bon, premièrement, on va annoncer une présence accrue qu'on paye avec du temps supplémentaire, avec une réaffectation de ressources à certains endroits chauds de notre réseau pour qu'on ait des constables, des ambassadeurs sur place. Je vais laisser M. Latulippe donner le détail de ce déploiement-là. Mais une chose qui est certaine, c'est que déjà dans la dernière année, vous le savez, je suis venu voir quelques fois sur les enjeux de financement de la STM, on a à la STM coupé 232 postes, puis on en a créé en 60 pour la sécurité et la propreté. Il y a déjà une concentration d'efforts, un alignement stratégique pour la sécurité dans le métro, parce qu'on sait bien que notre réseau est généralement sécuritaire. On le sait qu'on n'est pas dans la même situation qu'avant la pandémie. Il y a une présence accrue due à la crise des vulnérabilités à Montréal et ça amène des enjeux de sécurité puis des enjeux de sentiment de sécurité aussi. On veut que notre clientèle se sente à l'aise, se sente en sécurité dans le métro et pour ça, ça prend une présence accrue. Donc, c'est ce qu'on annonce. C'est un alignement qu'on a pris à l'STM. On va le renforcer avec des mesures particulières là, puis on veut continuer plus loin par la suite.
Monsieur Latulippe, c'est quoi les mesures? Qu'est-ce qu'on va voir comme changement?
En fait, les gens doivent savoir qu'à tous les matins, on prend la lecture du territoire, c'est-à-dire on regarde ce qui s'est passé, les événements, les plaintes des clients, les besoins. Et là, ce qu'on a créé d'ici la fin d'avril, on a créé 3 pôles de patrouille additionnels, c'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes composés de 2 ambassadeurs et 2 constables spéciaux qui vont couvrir des groupes de stations. C'est-à-dire on a ciblé 10 stations qui sont les principales stations pour lesquelles les clients se plaignent, mais en même temps, lesquelles on a de l'intimidation par l'environnement, par
la situation. Est-ce que je peux savoir lesquelles? Quelles sont les 10 stations?
Oui, en fait, pour les 10 stations, bien, on a le pôle sud-ouest là, qui est Lionel Groulx, Bonaventure, Atwater. On a le pôle est qui est Papineau-Baudry, Joliette-Frontenac. Et le pôle nord qui est Mont-Royal, Jean-Talon, Jarry. Alors, ces 10 stations-là vont être ciblées par de la présence additionnelle qui ne répondra pas aux appels. Un des enjeux qu'on a durant l'année, on a beaucoup de volume d'appels, de demandes d'intervention, ce qui fait que les constables se promènent beaucoup parce que le réseau est quand même grand. Mais pour ces 10 stations-là, c'est des gens qui vont être dédiés en temps supplémentaire pour couvrir jusqu'à la fin avril. Mais à cela s'ajoutent plein d'autres mesures, notamment la vigie caméra qui qui va être renforcé pour être en patrouille virtuelle en ordre d'exploitation en permanence. Également, on a les agents de station qui vont être placés dans les loges critiques pour avoir de la présence dans les loges aux bons endroits. On a les employés d'exploitation, tout ce qui s'appelle chef d'opération, chef de terminus, chef d'incident, qui vont porter les dossards, qui vont être facilement identifiables. On a de l'entretien additionnel qui va être ajouté. On va vraiment donner un coup sur l'éclairage là rapidement. Alors le but là, c'est de donner un coup jusqu'à la fin avril, parce que normalement, durant le mois d'avril, c'est le pire mois le plus critique à chaque année.
OK. Il y a combien de constables spéciaux, là, de constables dans le métro, là, qui parcourent au quotidien?
En fait, présentement, sur l'effectif, on a 160 constables. On doit en avoir 200 d'ici la fin de l'année. Au quotidien, par corps de travail, vous avez 40 constables. Une quarantaine de policiers également qui sont déployés. Si on ajoute à ça les policiers des PDQ, allons-y, admettons, un chiffre rond là, d'une centaine de personnes en uniforme dédiées. À cela s'ajoutent maintenant les ambassadeurs de sûreté pour le sentiment de sécurité. Alors, tous ces gens-là sont coordonnés. Et d'ailleurs, d'ici la fin avril, la coordination est encore plus augmentée avec SPVM.
Mais là, ce que vous m'annoncez ce matin, est-ce que ce sont des mesures pour le mois d'avril seulement, puis au mois de mai, on retourne à l'ancien horaire?
Non, à le mois de mai, il y a un plan différent qui va être appliqué, parce qu'on fait face à différentes réalités selon les saisons. Le métro est un environnement qui est très influencé par le climat extérieur. Alors, c'est sûr que la situation ne sera pas la même en mai. On va réadapter. On lit l'environnement, comme je disais tantôt, à tous les matins, pour essayer de cibler les bonnes stations. Ce qui veut dire que le plan de déploiement va être réajusté probablement, parce qu'on sait que la température va jouer un rôle important dans le changement de l'environnement métro.
Grosso modo, là, depuis la pandémie jusqu'aux données de janvier dernier, là, ce que j'ai compris, là, c'est une augmentation substantielle du nombre d'appels.
Là. Oui, il y a une augmentation du nombre d'appels, on se le cache pas. Là, on est passé de 43 000 l'an passé à 45 000 en 2023. Ça, c'est appel à intervention. D'ailleurs, depuis le début janvier, on est rendu à 12 600 appels, ce qui est quand même une augmentation de 41% par rapport à l'an passé. Mais ce qu'il faut dire également, il faut être prudent. Ça veut dire que les constables travaillent très fort, sont déployés aux bons endroits. On a une analyse stratégique là de toutes, je le disais tantôt, les plaintes, les événements, pour cibler les endroits où il y aura des interventions à faire. Donc, c'est certain que ça occasionne des appels, ça occasionne des interventions.
Non, mais il y en a qui appellent pas non plus aussi.
Puis il y en a qui appellent pas, et c'est pour ça qu'on est ici ce matin, pour encourager les clients à nous laisser savoir les endroits à risque, les endroits où ils se sentent intimidés. On a fait des marches exploratoires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le maximum pour être aux bons endroits, au bon moment, à faire la bonne chose. Et les ambassadeurs de sûreté sont là également pour rassurer. Et c'est des yeux et des oreilles qui nous permettent justement de savoir où on doit se localiser.
Mais là, je comprends, là, puis j'essaie de rendre ça clair pour mes auditeurs, là. Quatre personnes, deux constables, deux ambassadeurs, vous appelez, là, qui vont se déplacer dans les stations les plus problématiques.
Oui.
Exemple, vous avez dit, là, Mont-Royal, Jean-Talon.
Mont-Royal, Jean-Talon, Jarry, ça, c'est le pôle Nord, oui. Okay. Le pôle Nord, la région Nord.
Le Nord de la ville. Mais, donc, ça veut dire que dans ces trois stations, je risque de voir plus, une présence plus oui. réelle, plus... Oui. pertinente, disons.
C'est de la présence qui est dédiée vraiment à la visibilité. C'est-à-dire qu'exemple, quand ils vont arriver dans ces stations-là, parce qu'il y a un nombre quand même de stations restreint pour un groupe de quatre, ils vont arriver, les ambassadeurs vont demeurer à la loge pour être visibles aux tourniquets. Parce qu'un des problèmes qu'on a en période hivernale, c'est les gens qui sautent les tourniquets pour commettre toutes sortes de choses, notamment, surtout, des incivilités. Aller sur les voies, consommer de la drogue ou carrément consommer de l'alcool ou avoir des mauvais comportements. Donc, rester aux tourniquets pour les ambassadeurs, parler avec les gens, rassurer les clients. Les constables vont faire le tour de la station et s'assurer justement que les règlements sont respectés. Alors, on a moins de stations par des constables et ambassadeurs dédiés à ça qui ne répondront pas aux appels ailleurs. On va être plus présents. Mais je le rappelle, c'est pas les seules mesures. Les autres employés de la STM sont tous également dédiés au même service client.
Monsieur Caldwell, je comprends le plan, là, puis avec une vigie donc en temps réel, il y a quelqu'un qui va regarder les images. Oui. C'est pas juste des caméras qui captent la situation. Là, il y a une observation qui va être faite.
Oui.
Moi, je vais être le plus concret possible. C'est pas toujours des cas d'agression. Il y a une question de malaise ou de sentiment d'insécurité. Je vous donne des exemples. Des gens qui me disaient cette semaine, métro Atwater, ils sont 7, 8, 9 jeunes en train de fumer. Ils prennent de la bière. Je passe à côté. Ils me sautent pas dessus, là. Mais je me sens pas bien. J'arrive le soir, je suis une femme, je suis un homme, peu importe. Puis il y a des gens couchés dans les escaliers. L'éclairage est déficient. Je suis pas bien. Il y a personne qui me saute dessus. Mais ça me donne pas le goût de prendre le métro.
Ouais. Et il y a une évolution de notre perception, justement, de cette cohabitation-là par rapport à avant la pandémie. Là. Pour ceux d'entre nous qui prenons le métro depuis plusieurs décennies, ben, on a toujours côtoyé ces phénomènes-là. Là, avouons qu'aujourd'hui, au sortir de la pandémie, avec la crise des vulnérabilités, avec les enjeux de toxicomanie, on a la crainte de côtoyer certaines clientèles à cause des comportements imprévisibles qui sont présents, entre autres dus à des facteurs de santé mentale puis de la toxicomanie. Donc oui, concrètement, là, faut revoir justement nos critères ou nos standards de cohabitation.
Mais allez-vous qu'on peut les pas... sortir du métro?
Non, mais écoutez, là, un point. Là. Il y a des gens qui ont besoin d'un suivi clinique continu, là. Nous, la STM, on peut pas faire ça. La STM, on peut intervenir dans notre réseau. Il y a dans l'offre de service un trou de service où il doit y avoir une prise en charge de ces clientèles-là parce que quand bien même qu'on les sort, s'ils rentrent quelques minutes après, parce que le métro, c'est un réseau vaste où c'est facile d'y entrer et en sortir.
Je comprends que donc, vous n'êtes pas doit... un CLSC, puis vous n'êtes pas un hôpital, là, je comprends tout ça. Là. Mais on est en train de vous demander, comme on a demandé à la police, de jouer le rôle d'intervenant social. Parce que la plupart des appels sont des enjeux de santé mentale à Montréal.
Ouais.
Moi, ma question, là, comme usager du transport en commun, vous allez faire quoi? Vous dites, on peut pas les sortir, ils vont revenir. Donc, on va les laisser là, limiter les dégâts.
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on intervient, faut être le plus structurant possible pour pas juste régler le problème de façon ponctuelle, mais le régler dans le temps. Donc, oui, on intervient beaucoup, on va continuer à intervenir. On est en train de revoir justement nos niveaux de tolérance, à savoir si on va intervenir plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'ultimement, il y a un nombre restreint de personnes qui causent beaucoup d'incivilité dans le métro. Il doit y avoir une prise en charge que, comme vous le dites, on n'est pas un CLSC, on n'est pas des professionnels de la santé. Il doit y avoir une prise en charge d'une certaine partie de notre clientèle, qui est une clientèle vulnérable, pour que, quand bien même qu'on intervient, ben, ces personnes-là soient prises en charge puis ne se ramassent pas dans le métro. Le métro est un lieu public. Et là, il faut se le dire, lorsque des gens ne trouvent pas d'autres ressources, ils se ramassent dans le métro. Là. Alors, oui, il faut intervenir.
Okay.
Nous, notre force, c'est d'intervenir. La prise en charge des clientèles vulnérables, ce n'est pas notre force. On veut travailler avec nos partenaires de la santé pour améliorer ça.
Monsieur Latulippe, vous êtes le directeur de la Sûreté. Là. On parle du métro. J'ai des chauffeurs d'autobus qui, depuis ce matin, m'écrivent en disant quelles sont les mesures pour les chauffeurs d'autobus pour le transport en surface?
Oui. En surface, on a des véhicules de patrouille qui sont déployés dans chaque région. Donc, il faut savoir qu'on a deux régions de patrouille et à chaque quart de travail, il y a des véhicules qui sont dédiés au réseau bus. Maintenant, il faut quand même être réaliste. Là. On a à STM là, quand même 2000 bus qui sortent à chaque matin là, sur 250 lignes. Là, je vous parle de 4 véhicules de patrouille. Additionné à ça, tous les véhicules de police du CSPVM qui quand même sont très vigilants envers les chauffeurs de bus. Les appels sont donnés également aux policiers et à nos constables. Alors, il y a tout un système de sécurité publique. C'est pas seulement les constables de la STM, mais à notre niveau également, ben c'est sûr qu'on va développer de plus en plus des moyens additionnels pour les bus parce qu'on est conscient qu'il y a des réalités au bus, c'est-à-dire que
c'est
les enjeux de santé mentale.
C'est la même chose que dans le métro?
C'est la même chose que dans le métro, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont prendre le bus, qui vont crier, qui ont des comportements erratiques, qui vont avoir, en fait, qui respecteront pas les règlements parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale et aussi d'agressivité. On est des citoyens, des fois, qui peuvent avoir de la misère à contenir leurs agressivités. Et depuis qu'on a mis le fameux Lexan, ben, les gens se sentent souvent plus à l'aise de crier, cracher, frapper dans le Lexan, ce qui intimide les chauffeurs, on en est conscient. Il y a tout un travail que la STM...
Le Lexan, là, pour que les gens comprennent.
C'est le panneau, là,
plexiglas.
Plexiglas, exactement. Mais la direction de la STM est très préoccupée par ce phénomène-là. On regarde des solutions qui vont être déployées, justement, cette année. On regarde pour ajouter des mesures, comme entre autres, peut-être des ambassadeurs de sûreté, des additionnel, mais c'est une réalité qui découle de ce qu'on parlait, c'est de l'environnement social. C'est sûr que ça touche le réseau bus également.
OK. La ville de New York, la gouverneure a demandé à la garde nationale de se déployer. Trouvez-vous que c'est une bonne idée?
Ben, d'un, là, clairement,
dans le métro, là.
La solution pour le métro, là, c'est pas un état policier, là. On l'a dit, il y a des enjeux de suivi clinique pour certaines clientèles. Le déploiement de la garde nationale avec des mitraillettes n'arrive pas à remplir ce trou de service-là qu'il faut remplir pour aider à régler le problème de façon structurante. Nous, à Montréal, moi, je veux saluer la qualité du travail des policiers, des constables spéciaux qui ont des formations en désescalade, justement, pour apaiser la situation, pour à le travail que l'ensemble de nos forces de l'ordre font avec des travailleurs sociaux qui sont dans le métro, avec les unités EMIC et MIS qui sont en lien avec le système de santé pour, si on ne prend pas en charge, au moins bien référer les personnes au bon endroit. Donc, clairement, on veut une présence plus accrue dans notre réseau. Comme le disait M. Latulippe, de l'ensemble de nos employés qui sont là, de nos forces de sécurité, que ce soit les constables spéciaux, les ambassadeurs ou les SPVM. Donc, une présence dans le métro est importante. Une présence de type militaire, c'est pas ce qu'on souhaite, non.
Nathalie Collard me disait cette semaine, là, puis c'est vrai, là, que je comprends la présence là, d'une force, mais des détails comme un éclairage déficient, des endroits où il s'est sont depuis des mois, malgré le fait qu'il y a des citoyens qui disent il fait noir quand on passe. Mais ça se fait que ça, c'est un élément qui crée de l'insécurité. Ouais. Ça. Pourquoi c'est pas réparé plus vite?
Ben, on va se le dire, là, on avait un plan hivernal l'an passé où c'était un des objectifs, le relampage, c'est le terme technique qu'on utilise. Donc, améliorer l'éclairage. On est conscient qu'il y a un effort soutenu à faire là-dessus, un effort qu'on a fait cet hiver puis qu'on va continuer on va mettre une priorité là-dessus cette année. Puis moi, je dis à nos clients, là, parce que on le dit à nos clients. Je comprends que ça booste nos statistiques de plaintes, là, mais je dis à nos clients, si vous avez des endroits où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous trouvez que l'éclairage est déficient, où vous vous côtoyez, où vous ne vous sentez pas en sécurité à cause de la configuration des lieux ou de la cohabitation, dites-nous-le. Là. Nous, on veut documenter l'ensemble des besoins de notre clientèle, ce que vous appelez l'insécurité de notre clientèle, le sentiment d'insécurité, on veut le connaître justement pour y travailler. Donc, on dit aux gens, contactez-nous, que ce soit avec notre personnel en station, que ce soit avec les téléphones d'assistance, que ce soit avec notre formulaire web, que ce soit s'il y a une situation d'urgence avec le 911, on veut le savoir. Donc oui, faut améliorer l'éclairage. Si d'ailleurs, je dis à tous nos clients, s'il y a des endroits où vous constatez qu'on doit le faire, écrivez-nous, s'il vous plaît.
Vous allez avoir tout un mandat parce que tantôt, là, dans les prochaines minutes, je parle avec la mission Old Brewery parce que c'est la fin du service d'hébergement d'urgence au refuge de l'Hôtel-Dieu. Il y a 150 personnes et ils ont des plans pour relocaliser les gens, mais il y a 50 personnes qui veulent rien savoir. Ils vont se retrouver dans votre métro?
Ben, d'un, un mot sur comment ces ressources... J'ai utilisé les bons mots, je suis à la radio. Ces ressources-là sont tellement essentielles, on s'entend, pour le filet de sécurité sociale, pour...
On est d'accord, mais là, ils retournent dans la rue. Là. Il y en a une cinquantaine qui vont ressortir. Là.
Ben, je répète cet appel à l'aide pour justement ce trou dans l'offre de service qui fait en sorte que toutes les populations vulnérables, puis souvent celles qui sont plus difficiles à rattraper, c'est celles qui sont le plus difficiles et qui sont parfois récalcitrantes, on va se le dire, ben, il faut qu'il y ait un endroit où aller qui n'est pas le métro de Montréal. Tout simplement. Donc, on a toute notre solidarité. On trouve que ces ressources d'aide-là, nos partenaires du monde communautaire, du monde de la santé, font un travail formidable. On en veut plus.
Monsieur Latulippe, vous auriez besoin de combien de constables de plus?
En fait, c'est pas tant juste des constables. C'est un amalgame de solutions. Ça prend des travailleurs sociaux, beaucoup, parce que le travail qu'on fait est avant tout social, et ça nous empêche de faire d'autres tâches, comme entre autres du contrôle de titre. C'est sûr que les éléments problématiques, les personnes qui causent des enjeux, si on pouvait les bloquer au tourniquet pour pas qu'ils descendent en zone contrôlée, ben ça serait encore meilleur, et on veut travailler là-dessus avec les constables qui sont formés à cet effet-là. Avoir pour nous des intervenants sociaux en nombre additionnel, ça nous aiderait vraiment à faire de la prise en charge, parce que pour un duo de constables spéciaux, là, traiter un appel social peut prendre facilement 1 heure à 2 heures, le temps d'évaluer la personne, regarder c'est quoi les solutions, faire des téléphones pour faire en sorte que cette personne-là ne rentre pas à la prochaine station si on l'expulse. Et c'est pas vraiment la ligne donnée actuellement de traiter les gens simplement en disant on les expulse. On cherche à vraiment trouver des solutions durables.
Okay. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci,
Eric Allen Caldwell, qui est le président du conseil d'administration de la STM, et Justin Latulippe, qui est le directeur de la sûreté à la STM.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on vient avec les gens de la Société de transport de Montréal, parler de mesures additionnelles pour faire en sorte que les usagers se sentent en sécurité. Et c'est clair qu'il y a des enjeux importants au niveau de la santé mentale, de l'itinérance. Lundi prochain, c'est la fin du service d'hébergement d'urgence au refuge de l'Hôtel-Dieu, qui force donc la relocalisation de près de 150 personnes qui s'y trouvent présentement. Donc, on a des plans. Le problème, c'est qu'il y a à peu près une cinquantaine d'entre eux qui sont récalcitrants. Mélanie Richer est avec nous. Elle est la directrice adjointe clinique des services d'urgence pour la mission Old Brewery. Madame Richer, bonjour.
Bonjour.
Je veux bien comprendre là, ce qui se passe à l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, là, c'était un service d'hébergement d'urgence.
Oui, d'urgence transitoire qu'on a ouvert après la fermeture de plusieurs autres sites là, pendant la pandémie.
Et au total, 150 personnes qui y sont hébergées?
Présentement. Puis en fait, je voudrais juste rectifier quelque chose. On ne ferme pas au 15. On a donné des avis à des gens qui devaient quitter, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va fermer encore.
OK, mais à partir du 15, les gens doivent normalement quitter.
Il y a des gens qu'on a ciblés avec des problématiques plus complexes, qu'on va avoir de la difficulté à relocaliser là, en urgence, à qui on a demandé d'envisager des plans de relocalisation pour le 15, effectivement.
OK. Là, moi, je veux bien comprendre. Mettons qu'il y en a 150. OK, ils partiront pas tous la même journée, là. Mais sur les 150, il y en a combien qui ont un plan et qui savent où ils vont se retrouver?
En fait, on n'a pas demandé à tous les 150 de quitter pour le 15. On a d'abord ciblé en début mars les gens qui ont des gros problèmes de santé puis de mobilité. Ceux qu'on va avoir, que c'est impossible de relocaliser dans les refuges traditionnels présentement. Faut savoir que Hôtel 2 était un des seuls hébergements qui acceptait les gens à mobilité réduite présentement. Donc, ces gens-là, en urgence, je pourrais pas les relocaliser à la maison du père, exemple, ou ailleurs, là.
OK, mais.
Nos sites sont pas adaptés.
Ils s'en vont où?
Présentement, il y en a. On a demandé aux équipes traitantes de se mobiliser pour essayer de relocaliser ces personnes-là. Il y en a qui ont des plans de sortie pour le 15 ou pour dans les semaines suivantes. Ceux qui ont des plans, on les garde. Tant qu'on n'a pas de date finale, on leur laisse le temps de faire son affaire pour se relocaliser.
Et ceux qui n'ont pas de plan?
Ceux qui n'ont pas de plan, tout dépendamment du profil, on va, nous, les relocaliser, leur offrir des solutions de relocalisation en partenariat avec les autres refuges. Il y en a pour qui on a commencé à faire des démarches pour des appartements. Il y en a d'autres qu'on valide les places disponibles dans les autres refuges. Puis au fur et à mesure qu'il y a des places qui se libèrent, mais on leur demande de se rendre là-bas.
Bon, moi, on me dit qu'il y en a plusieurs qui veulent rien savoir, c'est vrai?
Il y en a qui... Ben, il y a une certaine proportion des gens qui sont à Hôtel-Dieu qui étaient des gens qui refusaient d'aller dans les autres refuges. Hôtel-Dieu est quand même assez confortable. C'est pas des dortoirs, c'est des salles, c'est des chambres d'hôpital, en fait, qui étaient occupées avec des personnes seules ou à deux. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui n'envisagent pas de revenir dans des dortoirs traditionnels.
OK. Si on veut se parler très franchement, là, ça a été ouvert parce qu'il y avait des ressources qui fermaient leurs portes. C'est un refuge d'urgence. L'objectif, c'est que les 150 partent.
Oui, à la fin, oui. Okay. C'est qu'on puisse relocaliser toutes ces personnes-là. Puis c'est pour ça qu'on se prend d'avance aussi puis qu'on y va par vague un peu pour que les gens y se trouvent des solutions.
OK. Est-ce que je peux conclure qu'un certain nombre vont se retrouver à la rue dans la mesure où de se... retrouver dans un autre refuge, il n'était pas vraiment intéressé?
Ben, pour avoir fermé d'autres, pendant la pandémie, là, on a ouvert des hôtels, on a ouvert des arénas, on a ouvert le Royal Victoria, puis on les a fermés. Pour avoir vécu toutes ces étapes-là aussi dans les 4 dernières années, il y en a une certaine proportion à la fin qui vont avoir refusé toutes les solutions ou qui auront, ça leur a pas assez avancé, qui vont décider de retourner à la rue, effectivement.
Savez-vous combien à peu près pourraient se retrouver à la rue?
Aucune idée. À la fin, là, c'est toujours un 5 à 10 % des gens là, qui ont refusé de se mobiliser puis que leurs démarches n'ont pas avancé, à peu près.
J'allais vous dire une question un peu étrange peut-être, là, mais s'il y a 150 personnes puis qui ont l'air bien à cet endroit-là, pourquoi ça reste pas ouvert? Pourquoi est-ce qu'il faut fermer?
Parce que le bâtiment a été repris à une autre instance, donc nous, il faut se relocaliser. On travaille, il y a des projets qui sont déposés, on est en attente, là, le processus suit son cours. Mais pour l'instant...
OK, mais qui prend votre place dans l'espace que vous occupez?
Si je me trompe pas, en fait, là, c'est le site qui a racheté, mais je suis pas trop certaine. C'est pas le, moi, je gère pas ce dossier-là. Là, je gère vraiment plus le clinique sur le site.
OK, donc le CIS a peut-être repris l'espace que vous occupiez ou que vous occupez actuellement.
Oui.
Puis là, vous regardez quoi comme option?
Je vais vous avouer que c'est pas mon dossier du tout. Là. C'est plus à la haute direction qui font des recherches présentement. Autant pour les deux organismes, parce que Hôtel 2 est géré en partenariat avec la mission Bury et la mission Bon Accueil. Donc, les deux organismes le font des recherches pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, d'acheter ou d'ouvrir ou pour relocaliser une certaine partie ou offrir un service là, prochainement.
Comment je vous dirais ça? On a 150 personnes qui sont bien. Puis là, vous dites, OK, pour des raisons de gestion, parce qu'on prend l'espace, on vous demande de les sortir, ultimement, les 150. Puis là, vous êtes peut-être en train de vous trouver un autre espace pour en reprendre. Puis on n'arrête pas de dire qu'il faut que les ressources se parlent dans le milieu, il faut harmoniser la STM, être obligé d'augmenter la présence. Je vous demanderai pas de porter un jugement là-dessus, mais c'est une gestion compliquée, mettons, de gens qui sont vulnérables.
Je suis bien d'accord, mais le fondement de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de logement abordable non plus. Il y a une raison pour que ces personnes-là se retrouvent en situation d'itinérance. Présentement, c'est pour ça aussi qu'on s'est pris un peu d'avance pour aviser les gens qu'on allait fermer. C'est difficile de trouver un logement à prix abordable, surtout pour des gens qui sont pour la majorité là, avec de l'aide de dernier recours. Donc, c'est notre gros enjeu, c'est ça.
Est-ce que
on voudrait toutes les placer en appartement, pas les envoyer dans des refuges.
Mais non. Avez-vous une date butoir là, pour mettre un terme aux opérations du refuge?
Pas pour l'instant, non.
OK, donc c'est pas un mois, deux mois, ça pourrait prendre six mois?
En tout cas, on s'imagine que ça n'ira pas aussi loin si on fait ce qu'on a vécu dans le passé, là, quand on a fermé le Royal Victoria ou autre. Mais on n'a aucune idée. Là, on n'a pas de confirmation. On s'est fait annoncer qu'il fallait quitter. Donc, on procède pour placer les gens dans des milieux sécuritaires le plus possible avant d'arriver à la fin.
Merci, Mme Richer.
C'est un plaisir.
Au revoir. Mélanie Richer, la directrice adjointe clinique des services d'urgence pour la mission Old Brewery. On s'est fait dire qu'il fallait partir. Moi, je retiens cette phrase-là parce que c'est celle qui résume le mieux. 150 personnes qui sont dans ce refuge. Là, je comprends que l'été arrive et tout ça, là. Mais on a les grands discours puis les gens qui nous parlent avec beaucoup d'éloquence de l'importance de se coordonner puis qu'on a besoin de ressources puis qu'il faut ouvrir de l'espace. Puis là, t'as de ce nombre, je sais pas combien, mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui se ramassent à la rue. Puis quand on dit à la rue, là, c'est dans le métro. Puis dans le métro, là, on a déjà pas mal de monde. Ça crée ce sentiment. Puis là, on augmente la patrouille. On a des axes avec les stations les plus problématiques. T'as l'impression que ce monde-là se parle pas. C'est, tu sais, on s'est fait dire de s'en aller. Bon, ben, prenez vos clics puis vos claques. Partout.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Depuis la semaine dernière, il y a une vague autour des propos du premier ministre Legault, ce gastronome incroyable, qui est allé déguster ce qu'on appelle le foufou sauce graine. Et celui qui a attiré le premier ministre du Québec dans cette aventure, il s'appelle Anthony Tran. Fred, tu nous l'as présenté la semaine dernière.
Oui, absolument, qui est impliqué dans le monde des influenceurs depuis plusieurs années et qui a eu l'invitation. En fait, c'est toi qui as eu l'invitation du premier ministre pour faire cette vidéo-là.
Oui, absolument. Mais en fait, j'ai envoyé l'invitation puis il a accepté. Donc, je suis très reconnaissant de ça.
Raconte-nous comment ça s'est passé.
En fait, moi, le but comme créateur de contenu, c'est de créer des pièces de contenu qui sont mémorables. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de mon défi, c'est d'essayer de rassembler toutes les générations possibles, puis de faire le plus de bruit possible, tout en ayant un impact positif. Tu sais, là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y avait le restaurant Belle Afrique qui avait une grande notoriété, qui était super populaire, puis que tout le monde en parlait à ce moment-là. Fait que là, dans ma tête, c'est quelle invitation que je pouvais faire pour pouvoir interrompre tout ce milieu-là, autant sur TikTok, mais aussi en faire parler pour les personnes qui regardent pas beaucoup les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé d'y aller avec M. Legault, mais en fait, c'est la première fois que je le dis, mais j'avais en fait une invitation à Ricardo. Mais je pense que ça n'a pas donné, malheureusement, ouais. Mais c'était...
On va écouter l'extrait en question qui a mis le feu à toute l'histoire.
Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine.
Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour rien, là. C'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine.
Avez-vous été étonné?
Très bon. C'est pas trop.
Avez-vous été étonné de voir sa réaction?
J'avais aucune attente. J'avais aucune attente, mais je suis bien agréablement surpris de sa réaction. Puis c'est super.
Il y a des gens qui disent que tu as été utilisé par le premier ministre. Comment tu te sens par rapport à ce propos-là?
C'est une bonne question. C'est une grosse question. Honnêtement. Pour moi, tu sais, je suis un gars qui je parle pas beaucoup de politique. Je suis un gars qui aime ça, créer du contenu. Moi, c'est vraiment la culture où j'avais mon focus. Écoutez, là, pour moi, c'est une rencontre de 15 minutes. Je pense pas qu'il y aurait pu faire autre chose à ce moment-là. Tu sais, c'est une pause midi. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était positif, autant pour toute la communauté, les réseaux sociaux. L'utilisation politique, pour moi... C'est vraiment plus le focus de la culture pour moi qui m'est parfait.
Co-fondateur de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Explique-nous, c'est quoi un créateur de contenu?
Absolument. C'est quelqu'un, en fait, qui va partager en vidéo ou en photo du contenu sur le web, tout simplement, puis qui va partager ça, soit pour eux-mêmes, pour commencer, bien sûr, mais après ça, qui, avec le temps, développe une communauté, puis qui partage ses passions ou ses intérêts, peu importe, ou des réalisations qu'il aimerait. Tout comme, je dirais, tu sais, à la télé, à la radio, mais sur le web, simplement.
OK. T'as combien d'abonnés, par exemple, qui te suivent?
Pour moi, en ce moment, j'en ai, je pense, au total, près de 300 000, à travers les plateformes. Je suis très reconnaissant de ça.
Attends, j'imagine. Tu gagnes ta vie avec ça?
Oui, absolument, absolument. Ça fait 2 ans que je me suis lancé à temps plein dans les réseaux sociaux.
Et bien aussi.
Oui, absolument. Le but, c'est d'avoir un impact positif.
Ricardo, t'allais dire quelque chose?
Oui, parce que c'est très, très rare au Québec... que quelqu'un peut vivre avec TikTok et qui a l'intelligence de pouvoir transformer ça en quelque chose de positif. Moi, je le suis depuis, je pense, les tout débuts. J'avais dit à Brigitte, ce gars-là, il a quelque chose de le fun parce que c'est un positif aussi. Tu le vois évoluer. C'est jamais... Puis moi, je pense pas du tout qu'il y a eu de la manipulation politique. S'il y en a une, c'est plus le contraire. Dans le sens où c'est un gars brillant qui est capable de mettre les morceaux ensemble pour que ça pogne. Que ça marche, il y a un côté très génial marketing derrière ça. Puis moi, je suis très fier de, je le connais pas personnellement, on s'est vu à quelques reprises. J'ai fait quelque chose avec toi il y a déjà 2 ans, mais de voir ce gars-là grandir, puis c'est planétaire là. C'est ça qui est le fun, parce que ce que lui fait, ben il y a des gens à travers le monde qui peuvent le voir. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que c'est un influenceur très positif au Québec.
Là, j'ai une question pas facile, je te préviens.
Oui, absolument.
Il y a un débat actuellement sur le temps d'écran que les jeunes, en fait, le temps passé devant des écrans par les jeunes, on parle de légiférer, de passer des lois, des règlements. Trouves-tu que les jeunes, comme toi, passent trop de temps devant les écrans?
C'est une bonne question. J'ai une question pour vous, pour répondre à cette question-là. Est-ce que, dans le temps de mes parents, en fait, est-ce qu'on regardait trop la télé? Ou est-ce que c'était, y avait le même.
Faut jamais
débat?
Répondre par une question. Faut plutôt répondre par une réponse.
Mais écoutez, en tant que créateur de contenu, c'est sûr que moi, je veux que mon contenu soit le plus vu possible par les personnes que je vise, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a, tu sais, pour moi, j'essaie de prôner le plus possible de, oui, tu sais, avoir une bonne balance de vie. Fait, évidemment, les réseaux sociaux, c'est une partie, mais ça peut pas être tout ce qui ça peut pas être ton 360 dans ta vie. T'sais, faut aller jouer dehors, faut aller parler avec du monde, puis avec du monde en vrai. C'est juste que les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil magnifique pour des fois même commencer ces discussions-là. Puis ensuite de ça, t'sais, on va texter quelqu'un, puis on va aller le voir pour jouer au soccer ensemble. T'sais.
C'est très bien. Et il y avait également les nominés là, pour le gala des influenceurs.
Absolument.
Ça s'est fait, là, la liste est connue?
Oui, c'est ça. En fait, on a annoncé ça hier, puis... Je peux vous dire que la réponse par rapport aux nommés a été super agréable. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a des que les nommés, en fait, pour la première fois ou pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance d'habitude. Donc, avec le gala qu'on essaie de donner cette reconnaissance-là, c'est super touchant à voir.
Ce qui est le fun de ce gala-là, c'est que, bon, dans les dernières années, on a eu quelques exemples d'influenceurs qui ont fait des choses qui n'avaient pas de sens. Bien, ça crédibilise un peu la démarche. Puis, il y a des gens qui ont une démarche extrêmement sérieuse, qui sont nommés là-dedans et qui méritent d'être vus et reconnus.
Absolument, absolument. On a 20 catégories, évidemment, mais une des catégories dont je pense que vous pouvez faire la référence, c'est éducation et sensibilisation. Oui. Déjà là, cette catégorie-là a un méga impact. Toutes ces 5 nommées-là, dans cette catégorie-là, ont un méga impact positif pour leur communauté et pour la culture québécoise, finalement.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Anthony
Merci Tram. Beaucoup à vous.
Bon, nous avons un nouvel animateur devant nous quand même. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il est intervenu parfait, il a posé des questions. On a appris hier que Ricardo devenait co-animateur de l'émission Deux hommes en or à Télé-Québec.
Et Rosalie aussi avec Télé-Québec, avec Jean-Philippe Vautier à l'animation et Rosalie Bonenfant. Salut, nouvel animateur, Ricardo.
Ben oui, écoute, ce matin, j'étais comme un peu nerveux, c'est drôle, ouais. Je disais ça avant d'entrer en onde parce que je suis habitué d'être dans des fonctions que je fais depuis 25 ans tous les jours. Et là, d'avoir été choisi pour faire quelque chose que je souhaitais.
Ça fait longtemps que tu souhaitais ça.
Ben, ouais. C'est-à-dire que je savais que j'avais envie d'aller vers un autre type d'animation. J'anime quand même depuis 25 ans des chroniques ou l'émission Une quotidienne. Mais d'aller plus en profondeur, c'est là où toute la différence est. Tu sais, souvent, j'avais des frustrations. Tu sais, je me souviens d'une émission, j'étais avec Mireille Desglins, Janine Souto et leur fille. Je me disais, c'est quand même exceptionnel. Puis, tu sais, je savais que Madame Souto était comme pas pour être là encore très longtemps. Je dis, moi, j'ai la chance d'avoir les trois générations et je suis obligé de rusher ça parce que j'ai 23 minutes, j'enlève les pubs, pour faire une recette, de jaser avec eux autres, tout ça. Puis tu finis des fois avec un peu d'amertume quasiment en disant, j'aurais tellement aimé les entendre parler sur leur relation autour de la cuisine, si on veut, mais entre ces générations-là, ça pouvait pas se passer. Alors, le désir d'écouter les histoires des autres, d'aller un peu plus en profondeur, ben enfin, va être assouvi grâce à cette
émission-là. Et c'est arrivé comment? T'as présenté ta candidature?
Ben non, écoute, j'ai reçu un appel en disant, écoutez, pour toutes sortes de raisons, tu sais, au début, c'est toujours flou quand un producteur t'appelle, pour toutes sortes de raisons, Monsieur Lagacé sera pas là l'an prochain, de la même façon, tu sais, bon, ouais, tu fais un plus un, effectivement, le gars, faut qu'il dorme de temps en temps.
Oui.
Ça je dis Morning Man, je sais pas, on se lève à 3 heures du matin. Oui. Fait que, il dit, vous êtes sur la liste des gens qui ont été pressentis pour passer à sa place. Puis, j'ai dit, bon, mais pouvez-vous y penser? J'ai pensé à ça 3 jours, je pense. Vraiment pas plus. J'ai dit, bon, mais OK, on se reparle telle date. Ça tombait vraiment bien. J'étais en vacances. Fait que j'étais tout seul avec Brigitte, puis on s'est mis à faire les pour les contre. Qu'est-ce qui me stimulait dans la vie? Puis on est parti de moi à la base plutôt que de partir de notre entreprise. Dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Puis c'est peut-être aussi une question que beaucoup de monde dans la fin de la cinquantaine se pose. Tu sais, les années d'énergie qui me restent, puis de passion, qu'est-ce que je veux faire avec? Puis j'ai envie d'écouter un peu plus ces histoires-là qui, souvent, je faisais des tournages. Je me souviens, j'ai fait une série pour le 150e du Canada. J'ai fait toutes les provinces, tous les territoires. J'ai rencontré des gens qui sont tous formidables dans quelque chose d'alimentaire. Puis je me souviens d'une entrevue. Je suis à La Ronge, dans le nord de la Saskatchewan, dans une communauté des Premières Nations. Et la femme, la sage du village, tu comprends, je passe un moment avec elle, puis elle me dit qu'elle a de la misère avec le monde dans notre genre. T'sais. Puis elle commence à m'expliquer tout ça. Puis il y a une caméra en arrière. Puis moi, j'étais microté. Puis j'y ai pas pensé. Puis dans ma tête, je me dis, mais ça se peut pas. C'est parce qu'on se connaît pas. T'sais. On se connaît pas. Puis on a passé 3 quarts d'heure comme ça. Il y a rien de ça, jamais qui va être vu. Nulle part. Puis son gars, à son décès, il m'appelle et dit, je pourrais-tu mettre un bout de ce que vous avez fait? Parce que c'est rare qu'on a jasé avec du monde qui s'intéressait à notre culture culinaire dans un coin reculé du pays. Puis ça me blessait, pas blessé, ça me faisait de la peine que ça se soit toujours perdu. Que ces phrases-là, que ces textes-là soient pas entendus parce que c'était des gens extraordinaires. Puis encore une fois, grâce à ce genre d'émission-là, je veux pouvoir avoir des conversations qui vont plus loin que ce que j'avais l'occasion d'avoir avant.
Mais tu sais que parfois, tu plairas pas toujours. Ça a été le cas pour Masterchef. Ça a beaucoup fait jaser le commentaire que t'as fait un concurrent, les gens sur les réseaux sociaux. Ah, oh, mais Ricardo, il a pas été gentil. Je trouve qu'il était bien. Ouais. Même maman me l'a dit. Mon Ricardo, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais ça, tu vas avoir ce genre de commentaire que t'avais pas avant avec, nécessairement.
Mais ça, c'est une belle leçon. Je suis content que ça me soit arrivé là, avant. Ça arrive. Parce que, tu sais, te faire bâcher à tort ou à raison pour quelque chose qui est fondamental pour toi, pour une conviction, pour une opinion, pour quelque chose que tu penses qui peut faire une différence. je sais que j'aurai aucun problème avec ça. Mais c'est de se dire, quand est-ce que je me ferme la trappe? Quand est-ce que je vais au bâton pour la vraie et la bonne raison? Donc, la vie est bien faite. J'aime mieux avoir une leçon avant, parce que c'était jamais arrivé auparavant que j'ai à lire des commentaires en me disant, attends une minute, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je le regrette-tu? Je le regrette-tu pas? Qu'est-ce que je... Puis d'y réfléchir, ben je vais être doublement, je dirais, et prudent et humble et... réfléchis dans la façon dont je vais aborder les sujets.
Qu'est-ce que tu vas faire quand ton invité répondra pas à ta question?
Ben, je vais dire, c'est toi qui vas avoir l'air fou. Parce que si tu vas à une émission,
ouais.
Ben c'est parce que tu l'as choisi. Un, c'est pas un tribunal.
Il n'y a pas de suspendant.
T'as envie d'être là, c'est parce que t'as envie de nous dire quelque chose. Que ce soit quelque chose parce que t'as une nouvelle pièce de théâtre qui part ou parce que t'as fait quelque chose que les gens sont plus ou moins d'accord. Mais tu vas à une émission, c'est pour expliquer, dire, raconter ce que t'as envie. Sinon, vas-y pas.
Et si un invité parle trop, parce que t'as une petite tendance...
Ben, si je tombe sur un Ricardo...
C'est ce que j'allais dire.
Oui,
ben,
c'est ça.
Je sais bien. Si je tombe sur un Ricardo, ben j'essaierai de faire ce que Paul Oud ou Paul Arcan faisait, tu sais. Ben, regarde, tant pis pour toi, il y aurait eu juste une question.
Alors, c'est de la prochaine saison?
Oui.
Est-ce que tu sais qui tu vas inviter en premier?
Non, écoute, d'ailleurs, je suis heureux de savoir que ça fonctionne beaucoup. C'est une des premières questions que j'ai demandé. Comment ça fonctionne? C'est très collégial. C'est très, tu sais, on le fait en groupe. Tu sais, des fois, Jean-Philippe me disait, ouais, mais quand j'ai déjà fait l'entrevue deux fois dans le mois avec cette personne-là, c'est le fun que quelqu'un d'autre prenne le relais. Alors, puis il y a des naturels, il y a des sujets qui t'attirent plus, que tu connais plus. Au contraire, des fois, il y a un sujet que tu connais pas, t'as envie de t'y plonger. Pour moi, c'est vraiment emballant d'être dans ce contre-emploi-là. Sachant que la passion et la cuisine va demeurer là pour moi toute la vie. C'est pas fini, c'est pas « Ah, je change de carrière ». Non, non. Ce moment-là dans ma vie est précieux. Je vais l'utiliser pour probablement être encore meilleur quand je ferai d'autres émissions où la cuisine sera le centre.
Mais les entreprises, ça va comment? Parce qu'on a vu l'inflation aussi dans les supermarchés. Comment ça se passe pour
Écoute,
les produits Ricardo?
Deux réponses contradictoires. Ça va pas bien, mais ça va bien dans le contexte. Tu sais, je veux dire, les coûts des aliments augmentent, tout est difficile. Il y a rien de facile, mais je dis, on a la meilleure équipe qu'on a jamais eue. Hier, c'était à tous les 2-3 mois, on a une espèce de communication à tous où Brigitte puis les directrices des départements nous expliquent où on s'en va. Chacun peut poser ses questions. On le sait qu'il y a des grands défis à venir, mais c'est toujours des cycles. C'est mon troisième cycle depuis qu'on est entreprise. C'est toujours des cycles de 2, 3, 4 ans qui montent, qui descendent dans l'économie. Et là, on s'en va encore pour un peu plus bas, mais on le sait que ça va remonter. Il y a un équilibre qui va se refaire entre le coût des aliments, des services et les salaires. Et puis ça n'a jamais le choix. C'est toujours ça qui arrive. Fait qu'on s'encourage beaucoup, on sert les coudes, puis on essaie d'être meilleur qu'on est à chaque fois, parce que c'est en étant bon que les gens continuent de suivre. Donc, les commentaires, bons ou mauvais, c'est le meilleur moment de les lire. Parce qu'il faut se préparer pour être prêt, puis être mieux qu'on a été avant.
Ricardo, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous autres. Merci.
C'est 23.